16 est une présentation de Bière Dépôt au Vent du Nord. On te donne un 10% de rabais sur présentation de ta carte étudiante sur Bière et Cidre les lundis. Le 16.
Vous êtes de retour au 16 et puis maintenant, ben, c'est le moment de s'entretenir avec toi, Marie-Ève, sur le livre que tu as coécrit avec Karine Prémont, donc La Maison Blanche vue du Québec, paru aux éditions La Presse. Donc, Simon, ben, Véro, ben oui, je te laisserai partir.
Ah oui, on a tiré au sort, c'est moi qui ai gagné. Là, non, mais bonjour, Marie-Ève.
Bonjour.
Bonjour, on se connaît de notre relation étudiante-professeur cette session-ci dans le cours d'enjeux sociaux du numérique. Puis moi, justement, tu nous as parlé tes thématiques de recherche au début du cours, comme quoi, toi, tout ce qui est complotisme, médias, journalisme, médias numériques, évidemment, de par ce que tu enseignes, et aussi la santé publique. Donc, toi, tes thématiques de recherche, c'est là. Puis là, je me suis demandé d'où c'est venu ce projet-là, d'où ça a parti de vouloir écrire sur la politique américaine. Comment ça a démarré, ce projet-là, avec Karine?
Hey, c'est une bonne question. En fait, c'est ça, j'ai comme trois axes de recherche principaux, tout ce qui est autour des médias, du contenu des médias, ce qui est la communication de crise puis de risque. Puis mon troisième axe, comme santé, si on veut, tout ça. Puis donc, je m'intéresse vraiment à différents enjeux liés aux médias, notamment. Puis Karine était préoccupée par la façon dont on a traité de la politique américaine ces dernières années. Elle trouvait qu'on avait vraiment fait un gros focus sur Donald Trump à titre personnel, son compte Twitter, puis aussi comment on traitait des élections américaines. Et elle mijotait depuis un moment l'idée de faire un livre autour de ce qu'on a accordé trop d'attention médiatique en tant que Québécois qui sommes à l'extérieur pourtant des États-Unis pendant la campagne électorale. Et elle a décidé de m'en glisser un mot parce qu'elle savait que je m'intéressais justement au rôle des médias, à la déontologie journalistique, tout ça. Et quand elle m'en a parlé, je disais que justement, moi aussi, c'est un sujet de préoccupation. Dans certains séminaires de maîtrise avec mes étudiants, on avait parlé de l'implication réelle de Trump sur la confiance envers les médias, les fake news. Et donc, on se retrouvait un peu derrière cette compréhension des enjeux politiques américains. Puis moi, mon intérêt sur le rôle des médias, puisque les médias québécois ont trop passé, de la bonne façon ou non, couvert la politique américaine. Et c'est donc de nos deux questionnements qu'on s'est mis ensemble pour écrire ce livre-là, finalement.
Donc, c'est vraiment ton chapeau plus journalisme, média qui a porté à ce livre-là, tu dirais?
Exactement. Puis dans le fond, ben, on s'est mis ensemble pour l'écrire, mais c'est vraiment un livre qu'on voulait grand public. Donc, n'importe qui s'intéresse de près ou de loin à ces enjeux-là, même si je ne suis pas en communication ou en politique, je connais peu ces enjeux-là, c'est un livre qu'on voulait justement accessible pour juste faire prendre une prise de conscience, puis voir aux gens est-ce qu'on en a bien traité de la bonne façon. Bon, évidemment, il faut s'y intéresser un petit peu pour le lire, mais c'est un livre qu'on voulait accessible. Dans le fond, l'idée du livre, c'est vraiment d'aller voir ce que les professionnels en pensent. On a fait 96 entrevues avec des journalistes qui ont couvert de près ou de loin la politique américaine au Québec, donc de médias généralistes, avec des spécialistes de la politique américaine au Québec, puis avec des spécialistes de la communication pour justement aller chercher l'avis de communicateurs sur est-ce qu'on a couvert de la bonne façon ou non la politique sous l'ère Trump, mais aussi dans les années qui ont précédé, là. Donc, comment ça a évolué depuis, disons, les 20 dernières années, 30 dernières années, cette façon de couvrir la politique américaine, là.
Puis quand on dit, t'as répété plusieurs fois, de la bonne façon, qu'est-ce qu'on voulait valider? Qu'est-ce que c'est que de traiter la politique de la bonne façon? Comment tu résumerais ça, par exemple?
Donc, bonne façon, peut-être pas le meilleur terme, là, pour le dire d'une façon vulgarisée, mais disons d'une façon pertinente en fonction des intérêts du public québécois. Donc, est-ce qu'on a pris en compte nos besoins? Est-ce qu'on a respecté nos normes déontologiques? Est-ce que le fait de le couvrir avec un œil québécois apportait une valeur ajoutée à cette couverture de la politique américaine-là? Ou est-ce qu'on était dans la reprise, dans le fond, des mêmes contenus que ce que les médias américains nous offraient déjà? Est-ce qu'on entrait parfois dans certains pièges? Par exemple, on peut voir qu'il y a des politiciens qui contrôlent maintenant très bien l'agenda médiatique, leur façon de se mettre en scène, leur façon de se présenter sur les réseaux sociaux, par exemple, et donc qui arrivent à faire embarquer les journalistes dans cette espèce de course-là à la reprise de leur propre contenu. Et si on pense au compte Twitter de Donald Trump, par exemple, ben, il réussissait vraiment bien ça, c'est-à-dire de lui-même proposer du contenu qu'on allait reprendre, qui parfois déviait de l'agenda, puis réussissait à nous faire oublier les vrais débats politiques, les vrais débats sociaux, pour nous intéresser aux dernières phrases, niaiseries qu'il avait pu dire sur Twitter, finalement.
Chaque fois qu'on parle de Trump et de Twitter, ça me fait penser à ma chronique que j'avais nommée « Le tweet ne chantera plus » quand ils ont fermé son compte Twitter.
Ouais, je me
sais pas pourquoi ça me ramène toujours ça, mais merci, ça clarifie un peu pour moi comment tu as pu, en fait, arriver avec Karine Karine Prémont pour faire ce livre-là. Ça piquait ma curiosité.
Oui, et puis Karine et moi, on dirige ensemble déjà une étudiante à la maîtrise. On avait déjà envie de travailler ensemble depuis longtemps sur différents projets de recherche. On en parlait depuis longtemps. Puis il y avait vraiment ce momentum-là où moi-même, j'avais déjà dit à Karine quelques fois, écoute, on m'appelle pour me parler de comment Trump se présente sur les réseaux sociaux puis commenter ça comme je fais de la recherche sur le journaliste, les médias, les réseaux sociaux. Puis parfois, ça allait jusqu'à me poser la question, est-ce que Trump va gagner? Puis je leur dis, je suis pas prof de politique, je suis prof de com, mais la curiosité était tellement intense pour le personnage que voilà, ça nous amenait à vouloir creuser ça quand même.
Je pense que Trump a amené beaucoup de gens qui s'intéressaient pas à la politique à soudainement s'y intéresser plus par inquiétude que par...
Mais surtout au Québec, c'est ce que le livre révèle vraiment, qu'au Québec, on a une perspective tellement pro-démocrate qu'on voyait Trump un peu comme l'anti-héros, puis c'est ce qui nous fascinait, là, c'était comment est-ce que quelqu'un qu'on voit autant comme un anti-héros peut atteindre ce statut-là, puis on le suivait vraiment comme un téléroman. Surtout qu'on a vraiment cette vision construite-là des États-Unis où on a suivi toutes sortes de séries américaines, 24, House of Cards, il y en a tellement, qu'on a cette vision construite où la politique américaine nous semble spectaculaire. Mm-hmm. Là, tu as le personnage parfait pour que dans la vie réelle, on voit cette série-là se reproduire. Ça fascinait les gens au Québec particulièrement.
Mm-hmm. Ah oui, puis pour faire du bon à Donald Trump, justement, c'est une de mes questions. Je me posais, ben, tu sais, moi, je philosophe souvent sur les trucs. Souvent, c'est pas concret. Mais je me dis, est-ce que Donald Trump, pas qu'il a été un mal nécessaire parce qu'il a fait beaucoup de tort, mais dans le sens où s'il n'a pas servi à être comme un miroir de désillusion, dans le sens où en une seule personne, il a réussi à montrer tout les trucs qui clochaient aux États-Unis, puis le fait que toutes ces, je sais pas, ces idées-là préconçues justement du mythe américain n'existaient pas vraiment, tu sais, que le racisme était encore là, qu'il y avait encore justement la communauté LGBTQ qui était pas martyrisée, mais je veux dire maltraitée et tout. Est-ce que ça a été comme un peu justement, on a eu besoin de ça comme société de voir, regarder Donald Trump faire comme OK, les États-Unis sont à cet endroit-là en ce moment, en réalité.
Mais peut-être du point de vue du Québec, comme je le disais, où nous, on a cette tendance à être vraiment plus pro-démocrate parce que ça ressemble plus... Tu sais, même nos partis qu'on qualifie à droite sont vraiment loin de la droite américaine.
Ouais, absolument.
Puis on le voyait, là, quand on a fait des analyses de couverture de comment les journaux québécois puis canadiens présentaient les différentes élections américaines, ce qu'on voyait, c'est vraiment une tendance pro-démocrate. Puis on présente davantage des candidats ou des personnages républicains, mais parce qu'on les présente un peu en ennemis. Donc, là, sûrement que l'élection de Trump, pour nous, est venue nous conforter dans cette vision-là des États-Unis, comme parfois ayant ces valeurs-là qui sont qui n'ont pas très bien évolué, puis un personnage qu'on trouvait aussi caricatural que Trump. Mais il faut revenir peut-être plus loin que ça. Puis le problème, c'est qu'on n'a pas toujours posé les bonnes questions, à savoir pourquoi on a voté pour Trump. Mm-hmm. Et aller comprendre les motivations des gens derrière ça. Puis les motivations sont vraiment diverses dans différents milieux. Puis ça, les journalistes qu'on rencontrait nous-mêmes nous le disaient, on n'a pas toujours eu le luxe, le temps, les moyens financiers pour aller creuser. Il y a vraiment d'autres enjeux. Il y a des gens qui n'aimaient pas nécessairement Trump comme personnage, mais votaient quand même pour lui parce qu'il y a une tradition de voter pour le Parti républicain, parce qu'il y a d'autres enjeux qui, pour eux, sont tellement importants qu'ils prennent le pas sur tout le reste. Puis on l'oublie, mais entre autres, bon, moi qui, tu le disais, Véronique, travaille sur le complotisme quand même beaucoup depuis quelques temps avec la Charte UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bien, le mouvement QAnon est encore super fort malgré que Trump soit parti. Uh-huh. Puis on attend encore qu'il revienne. Donc il y a encore une base qui est là, qui pense encore que Trump va nous sauver de l'état profond, puis des magouilles pédosataniques.
Seigneur. Ouais, on a fait quelques petites recherches dans le cadre du cours, et c'est inquiétant ce mouvement, ce mouvement-là. Et justement, ce personnage qui nous a quittés pour le plus grand bonheur de tous les Québécois, pas mal en tout cas. Est-ce que tu penses, toi, de ton côté, le média-journalisme, qui peut manquer, justement, leur manquer aux journalistes parce que ça donnait de l'ouvrage, je veux pas, aux gens des médias de couvrir cet argument?
Il n'y a rien qui nous dit qu'il ne se présentera pas, hein, parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il va peut-être se représenter aux prochaines élections. Donc, est-ce qu'il est vraiment disparu? On en reparlera. Aux journalistes, c'est une bonne question. Je pense, entre autres, je pense que c'est Yves Boisvert de La Presse, quand on a rencontré, qui nous disait que là, ça lui faisait du bien, qu'il avait enfin l'impression de prendre une pause après un marathon interminable. Donc, c'était vraiment bienvenu, cette pause-là de Trump, parce que ce qu'on observe, ce que met de l'avant, c'est vraiment que même si on s'intéressait beaucoup à la politique américaine puis aux autres élections, il y a comme eu un apogée là, avec la dernière élection de Trump, particulièrement au Québec. Là, on a massivement couvert. Et là, depuis que Biden a été élu, c'est comme si on est revenu à une normalité. Mm-hmm. On a une certaine normalité des choses. Et beaucoup de journalistes nous disaient, ben là, ça fait du bien, on avait besoin besoin de reprendre notre souffle un peu avant de refaire une course. Donc,
mais ça, plus COVID.
Ça manque pas nécessairement tous les journalistes. Il y en a qui apprécient de reprendre leur souffle pour repartir. Bon, il y en a d'autres qui, certainement, ça manque parce qu'ils veulent continuer à attirer l'attention, puis il aimait bien le côté spectacle. Il y a même des, je pense entre autres à Mère France Bazot que je rencontrais pour le livre, qui disait, elle-même a dit, je suis ma propre coupable parce que je suis la première à aller voir ce qui se passe, puis je veux savoir. C'est comme un téléroman, on aime ça, savoir la suite de l'histoire. Là. Surtout qu'on se dit quelle phrase qui peut bien avoir fait qui serait pire que la veille.
Hein. Oui, c'est vrai, puis tu sais, dans les médias journalistes, souvent le sensationnalisme, c'est quelque chose qui est apprécié parce que c'est
ça,
que
t'as des clics,
t'as des lecteurs, tout ça. Là, donc c'est sûr que Trump, c'était une machine à ça. Là. C'était une machine à nouvelles qui n'ont pas de bon sens. Là,
mais à l'inverse aussi, je ne sais pas jusqu'où vous reculez dans le temps, là, dans le livre, mais j'ai l'impression qu'on a eu deux personnages un peu antithétiques. Là. Évidemment, Barack Obama, là, qu'on glorifiait un petit peu, même si au final, c'est un mandat. Ben, en fait, c'est deux mandats là, qui sont un petit peu, je sais pas, plein, rempli d'espoir, et puis finalement que la réalité est un peu différente. Puis là, à l'inverse de cette personnalité polarisante-là, comment est-ce que cette représentation-là entre, ben, j'imagine que vous remontez jusqu'à Barack Obama, mm-hmm. là, mais comment, où s'est passé le shift, justement, puis comment, est-ce qu'il y a eu un shift, est-ce qu'il y a eu une différence de représentation entre l'époque Obama et Biden, entre guillemets, là, et l'époque Trump?
Oui, ben c'est certain que Obama a bilan mitigé parce qu'il se rend compte qu'on peut pas tout faire, on se fait mettre des bâtons dans les roues parfois en politique. Mais oui, on remonte très loin pour dire que justement l'attention envers les États-Unis puis envers les élections américaines n'est pas apparue sous Trump. On a vu différents chefs. Aussitôt qu'il y avait des chefs très charismatiques, très spectaculaires, comme Barack Obama, comme JF Kennedy, surtout qui arrivait avec la télévision, tout ça, ben c'est des moments où on accordait beaucoup d'attention à la politique américaine, puis il y a eu des événements ensuite. Des événements particuliers quand on était dans des guerres, guerre du Vietnam, conflit avec Cuba, quand on a, par exemple, le 11 septembre qui est arrivé, il y a des moments en particulier où vraiment notre attention se portait vers les États-Unis. Des moments aussi d'élections particuliers, entre autres, je pense à Guy Gendron qui nous racontait qu'il était à Washington comme correspondant au moment où il y avait l'élection de George W. Bush, donc Bush Junior, qui s'est soldé par vraiment des recomptages interminables en Floride, puis d'expliquer comment fonctionne le système politique américain qui fait en sorte qu'un État qu'on recompte peut changer vraiment l'issue d'une présidence. Ici, on ne comprenait pas nécessairement ce système-là. Puis il y a eu des événements comme ça qui ont fait en sorte qu'à ces moments-là, on était vraiment captivé par la politique américaine, puis on réalisait son importance à la fois parce qu'elle fascine, mais parce qu'elle a des implications chez nous économiquement, socialement, on est très proche. On est beaucoup plus américain qu'on le pense. Hein? On voyage aux États-Unis, on fait affaire avec les États-Unis, on a des accords de commerce avec les États-Unis, donc ça nous concerne directement. Et c'est là que, à la fois, c'est important d'en parler, puis parfois, ben, certains spécialistes nous disent qu'on aurait peut-être dû parler davantage de pourquoi ça nous concernait, ce qui se passait là, en ce moment aux États-Unis. Y a des moments où on est peut-être plus tombé dans l'anecdotique que dans vraiment ce qui était utile à savoir pour nous en tant que Québécois, puis qui ajoutait d'ailleurs cette valeur ajoutée-là d'écouter les médias québécois plutôt qu'écouter les médias américains, parce que les médias québécois peuvent me dire en quoi ça me concerne, ce qui se passe avec cette politique-là.
Absolument. Puis j'imagine aussi, tu sais, que il y a comme souvent la théorie de la proximité aussi dans le fait qu'on est plus concerné ou qu'on se sent plus concerné par des événements, puis le fait que, justement, on est voisin, on est collé sur les États-Unis, j'imagine que ça fait en sorte aussi naturellement qu'on s'intéresse plus aux États-Unis, par exemple, qu'on s'intéresse à l'Europe.
Ben oui, c'est ce que plusieurs intervenants dans le livre disent. On a tendance à se penser très français, très européen, mais quand on regarde beaucoup nos référents culturels, nos référents sociaux, je pense Catherine Côté qui parlait de même parfois de notre façon de mesurer, de calculer. On réfère beaucoup à des systèmes américains parce qu'on est très proche des systèmes américains. Et c'est pas nouveau, là, la culture américaine a toujours été omniprésente partout dans le monde. Le cinéma américain est très fort, mais là, c'est vrai qu'on a cette influence-là, en plus d'être voisin des États-Unis, donc de voyager, de côtoyer. Et c'est drôle dans le livre parce qu'à certains moments, il y a des intervenants qui nous disent c'est comme si les nouvelles internationales, c'est devenu les États-Unis. Donc, tout ce que les États-Unis font, ça compense pour tout ce qu'on ne couvre pas ailleurs dans le monde. Puis en même temps, il y en a d'autres qui nous disaient c'est comme si les États-Unis, c'est devenu tout. On pense quand on allait au club vidéo à une autre époque où il y avait plein de films, c'était tous des films américains, puis dans un coin, tu avais les films étrangers. Puis souvent, les Québécois, c'était avec les films étrangers
rarement
français.
Rarement loué, là.
C'est ça que tu avais en 13 copies, puis Blu-ray, là, ça, c'était Québec. Ça, c'était américain. Ouais.
C'est comme si ça, là, c'est dans les médias aujourd'hui, ben, la place des États-Unis est là, puis à côté de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, puis même presque parfois au Québec, parce que je pense entre autres à ce que Alain Saunier puis Patrick White nous racontent dans le livre en disant on oublie beaucoup, on a couvert ce qui se passe aux États-Unis, mais à côté, on a oublié de couvrir ce qui se passait. Ici, on avait des couches à la chefferie super importantes pendant la dernière présidentielle américaine, puis on n'a presque pas suivi qui allait être nommé au nouveau qui allait être nommé comme nouveau chef du Parti conservateur canadien, encore moins la course à la chefferie du PQ.
Ouais.
Et ça, c'est sans parler Paul Saint-Pierre Plamondon, on l'a pas trop suivi, puis sans parler de ce qui se passe à Chicoutimi ou de ce qui se passe à Rouyn-Noranda, qui couvre ça. On sait pas trop ce qui se passe chez nous, mais on sait plus que ce qui se passe,
ailleurs. J'étais quand même étonnée aussi des derniers résultats des élections fédérales, parce que je sais pas si je me trompe, je suis pas une experte en politique, mais souvent, quand du côté américain, ils sont républicains, nous ici, on est libéral. Puis quand eux sont démocrates, nous, souvent, on est conservateurs. T'sais, pendant Obama, on était avec Harper, nous autres, donc qui était un gouvernement conservateur. Moi, j'avais remarqué ça, mais je sais pas si c'est vrai, je sais pas si ça a une valeur scientifique, ce que je dis là, mais j'ai remarqué ça, que souvent, quand eux sont plus olé-olé, nous autres, on est plus conservateurs.
Karine Prémont dirait plus que moi s'il y a une influence ou pas, mais quand même, Trudeau est arrivé, si je me trompe pas, assez rapidement quand même. Mais ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est que notre politique a de l'air vraiment beige à côté de celle des États-Unis. Puis je reprends vraiment le terme là, dans le livre, nos spécialistes nous disent on est beige. T'sais, nous, c'est plate, on n'est pas aussi polarisé, on n'a pas vraiment des partis très à gauche, très à droite. Nos chefs sont beaucoup moins spectaculaires, même s'ils s'inspirent beaucoup du modèle américain. Là. Mm-hmm. Les comptes Instagram, les comptes Facebook, la façon de se présenter de nos chefs, c'est directement inspiré des stratégies américaines. Mais on n'a pas le côté aussi flamboyant qui fait en sorte que forcément, on s'intéresse à ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est beaucoup plus spectaculaire. Puis même notre système politique n'a pas est pas construit de la même façon pour provoquer cette espèce de débat-là qu'on voit aux États-Unis.
C'est vrai, hein? C'est vraiment une construction qui est unique, je pense, aux États-Unis. Il n'y a pas ça ailleurs. Hein? Je pense que c'est...
Je tiens à souligner que à ce temps, les dirigeants sont rendus aussi sur TikTok. Là. Ils font toutes des représentations là-dessus. Puis encore là, le Canada copie un peu les États-Unis et tout. Puis là-dessus, je voulais savoir, sortir un peu du cadre du livre, puis au niveau des réseaux sociaux et tout, justement, vu qu'on s'en est de plus en plus connectés, interconnectés, il n'y a plus vraiment de frontières dans l'information. L'information des États-Unis peut aussi arriver aussi vite ici que celle qui arrive à Rouyn-Noranda, justement. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'un peu de diluer notre politique dans l'avenir, puis de mélanger justement des enjeux américains à des valeurs ou des enjeux ici québécois, puis après ça, peut-être on ferait le mauvais choix pour les mauvaises raisons, là?
C'est une super bonne question, puis je me souviens que c'est une réflexion que plusieurs intervenants qu'on a rencontrés pour le livre avaient, entre autres Yannick Dufresne de l'Université Laval, puis Martine Desjardins qui est rendue à la FPJQ. Je me souviens que c'est ce qu'il disait. Parfois, on a des enjeux sociaux américains qu'on transpose ici, mais on n'est pas dans le même contexte. Donc, ils ne s'appliquent pas tout à fait de la même façon, puis on voit vraiment l'influence d'un Black Lives Matter, de tout le mouvement qui dénonce le racisme systémique, de MeToo, des influences qui sont, bon, c'est positif parce qu'il faut dénoncer certains événements sociaux, mais c'est quand même pas le même cadre. On peut pas juste reproduire parce qu'ici, on a un contexte différent. C'est sans doute, c'est pas nécessairement les mêmes minorités qui sont affectées. C'est vraiment pas le même contexte. Et là, on a une tendance à reprendre puis à transposer directement un débat alors qu'on n'est pas dans le même contexte. Puis ça, c'est sûr que les réseaux sociaux sont un facteur qui vient influencer là, cette façon de faire-là. Et oui, il y a des intervenants qui nous disent que ça nous préoccupe parce que là, est-ce qu'on est en train de se poser des mauvaises questions puis d'oublier qu'est-ce qui est vraiment nos propres enjeux? Et c'est là que les médias québécois, par exemple, sont importants parce qu'ils apportent une coloration francophone, ils rapportent ça dans nos enjeux à nous et c'est leur rôle de peut-être réfléchir à maintenant, est-ce qu'on l'a fait assez, est-ce qu'on doit davantage montrer pourquoi c'est important puis on se distingue. C'est un avantage qu'on a au Québec que le Canada anglais a beaucoup moins parce qu'à cause du fait que la majorité des gens dans le Canada anglais sont anglophones, mais ils vont écouter les médias américains puis ils vont être influencés encore plus directement tandis que nous, on a un filtre grâce à la langue. Donc, il faut le voir vraiment comme un avantage. Ça nous permet de réfléchir puis de pouvoir présenter les choses autrement. Mais malgré tout, il y a des problématiques. Entre autres, quand on a fait l'analyse de contenu de la presse puis du Globe and Mail, ce qu'on voyait, c'est que les experts qui sont le plus interrogés dans les journaux, même québécois, c'est des experts américains. Puis quand on chiale que, je sais pas, la chaire Raoul Durand est partout pendant les élections, tant mieux qu'on ait des spécialistes québécois, mais c'est quand même des spécialistes spécialistes américains qui prennent le plus de place.
Ouais. Marie-Ève, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Donc, La Maison Blanche vue du Québec aux éditions La Presse. Donc, c'est en librairie depuis deux semaines à peu près, un petit peu plus que ça. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Allez vous procurer ça là, dans une librairie indépendante. Et puis, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On s'en va en musique et on revient dans quelques instants.